Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la langue, ou plutôt le langage, comme objet de lutte politique, comme moyen de façonner le monde. Dans La langue confisquée, lire Victor Klemperer aujourd'hui, l'essayiste et traducteur Frédéric Joly propose une biographie libre de cet universitaire juif allemand qui prit note des graves distorsions infligées à sa langue par les nazis, pour une réflexion aussi sur la situation contemporaine à l'heure de la post-vérité, comme nous l'expliquera Frédéric Joly. Ce sera à 12h55. Mais avant cela, nous allons revenir sur la décennie 2010 qui vient de s'écouler et qui a profondément marqué l'art contemporain, souvent résumé à son marché, devenu valeur refuge après la crise de 2008. Le marché de l'art donc a offert le spectacle d'un système devenu fou, au point d'occulter souvent d'autres transformations profondes. On en parle tout de suite avec la journaliste et critique Roxana Azimi.
La grande table. Raphaël Bourgois.
L'affaire a fait grand bruit en cette fin d'année 2019, c'était début décembre, l'œuvre de l'artiste star italien Maurizio Cattelan, intitulée « Comédiane, une banane scotchée au mur » du stand de son galeriste français Emmanuel Perrotin lors de la foire Art Basel Miami. Cette œuvre a été vendue 120 000 $. Une affaire qui résume à elle seule tous les excès, mais aussi tous les malentendus dès qu'on parle d'art contemporain. La lorgnette du marché obscurcit bien souvent le jugement et le regard de celles et ceux qui écoutent rarement les premiers intéressés, à savoir les artistes eux-mêmes, qui ne prennent pas nécessairement la peine de recontextualiser une œuvre, qui, intervenant plus d'un siècle après le ready-made de Marcel Duchamp, montre qu'on n'a pas beaucoup évolué sur la question. L'occasion de revenir donc aujourd'hui sur la décennie écoulée avec l'une des meilleures spécialistes du marché, mais aussi une fine observatrice des évolutions de la scène artistique de ces dernières années. Bonjour Roxana Azimi.
Bonjour Raphaël.
Alors vous êtes journaliste au Monde, spécialiste donc du marché de l'art, mais vous êtes aussi titulaire d'un doctorat d'histoire de l'art, je crois, à l'Institut des hautes études
d'histoire
tout court. Alors, vous allez nous aider justement pour cette recontextualisation historique. Vous avez aussi cofondé le quotidien de l'art en 2011, qui est un quotidien qui regarde justement très précisément et pas simplement par le petit bout de la lorgnette, pour reprendre cette expression que je viens d'utiliser, cette question à la fois du marché de l'art et de l'évolution de l'art contemporain. On peut peut-être commencer par la fin, parce que j'aimerais bien qu'au cours de cette émission, on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé au cours des dix dernières années, non pas dans le détail évidemment, pour essayer de comprendre s'il y a véritablement eu une évolution dramatique, j'ai envie de dire dramatique dans le sens du drame presque théâtral du marché de l'art et de l'art contemporain en règle générale. En quoi cette affaire Maurizio Cattelan vient-elle couronner cette décennie selon vous? Est-ce qu'elle est si significative que cela?
C'est une œuvre qui est significative, absolument. Comme beaucoup d'œuvres qu'a réalisé Maurizio Cattelan, qui sous ses dehors un peu de gagman, est un fin observateur du monde de l'art, et c'est un caricaturiste qui sait créer des gags visuels qui en disent long sur l'état du monde en général, sur le monde de l'art en particulier. Et c'est vrai que cette œuvre, a revêt plusieurs sens. C'est une œuvre qui tend un miroir aux excès du marché de l'art. C'est vrai qu'une banane, le fruit le moins coûteux qui soit présenté à 120 000 $, en plus une banane, c'est un fruit périssable qu'il faut changer régulièrement. Donc il pose la question de la valeur de l'œuvre d'art. Et puis, il démythifie aussi l'artiste. C'est-à-dire, l'artiste n'est plus celui qui est sur un piédestal, mais il devient un comédien. C'est le titre qu'il a donné d'ailleurs à cette œuvre. Donc, il ne se prend pas pour un moraliste, parce qu'il a beaucoup trop d'humour pour cela, mais il fait de la critique institutionnelle. Et c'est en cela, en fait, qu'il rejoint beaucoup d'autres artistes par le passé, comme Hans Hacke, qui ont pu critiquer le fonctionnement du marché, le fonctionnement des musées. Mais lui, il introduit ce qui fait beaucoup de bien, un peu d'humour.
On va continuer un petit peu à décortiquer, à éplucher cette œuvre, si vous le voulez bien, Roxana Azimi, mais peut-être rappeler qu'en 1999, Cattelan avait déjà utilisé le scotch. Il avait scotché son propre galeriste, un galeriste italien à l'époque de sa galerie milanaise Massimo De Carlo, pardon, qu'il avait scotché lors du vernissage de son exposition à un mur. Et il y avait un côté grotesque déjà, le côté de l'humour évidemment, une sorte de crucifixion qui est un thème aussi qui revient évidemment beaucoup la question de la religion dans l'œuvre de Maurizio Cattelan. Et donc, on est passé du galeriste à la banane. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose de l'évolution du marché de l'art en 20 ans?
En fait, quand il avait scotché son galeriste, l'idée c'était la prise de pouvoir de l'artiste sur le galeriste. C'était l'idée de rappeler que celui qui est au centre de tout, c'est l'artiste. Ce n'est pas son galeriste, ce n'est pas son collectionneur. Il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir cette démarche-là. Un autre artiste réputé pour ses excès, Damien Hirst, a souvent dit qu'il n'est pas le singe sur l'orgue de barbarie des collectionneurs. Donc c'est une volonté de montrer qui est le roi, qui mène la danse. C'est l'artiste qui mène la danse. C'est l'artiste qui mène la danse face à son marchand. C'est l'artiste qui mène la danse face à ses collectionneurs. Il a décrété qu'une banane est une œuvre d'art, qu'une banane périssable est une œuvre d'art, qu'il faut y mettre un prix, 120 000 dollars. C'est à prendre ou à laisser. Il y a quand même des gens qui prennent. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ces artistes synonymes de marché sont ceux qui aiment beaucoup jouer avec ceux qui les font vivre, en fait. Ils adorent mordre la main de ceux qui les font vivre.
Alors, c'est un peu ce qu'il expliquait Maurizio Cattelan lors de son discours public pour la réception du titre de professeur honoraire de sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Carrare. C'était en 2018.
Je veux remercier tous les artistes, passés et présents, pour avoir été mes maîtres silencieux. Chacun d'entre eux m'a montré que les limites n'existent pas, que notre vocabulaire peut être inventé chaque jour, et que si quelque chose n'existe pas, nous pouvons le créer. Avec leur pratique, beaucoup d'artistes m'ont suggéré que sans la discipline, sans le silence ni la détermination, le sacrifice, la passion, la joie, la folie, le risque, la rationalité, sans tout cela, le résultat de notre travail n'est qu'un exercice de style. Eux tous sont d'accord pour affirmer que la mission d'un artiste est de découvrir des symboles. Symboles qui, eux seuls, permettent de transcender les modes, le goût et la bien-pensance, pour engager une bataille contre l'histoire et un dialogue avec nos peurs les plus obscures.
Voilà, c'était l'artiste Maurizio Cattelan qui rappelle ce rôle de l'artiste qui est aussi de faire émerger des images qui correspondent à l'époque, Roxana Azimi.
Absolument. Ce qui est très étonnant, ce sont les mots qu'il utilise de discipline, de rationalité, alors qu'on l'a souvent pris pour un dilettante, pour un fou du roi, pour un bouffon. Et en fait, les mots qu'il utilise montrent bien que chaque œuvre est pensée, que ce n'est pas que chaque œuvre est réfléchie. Ce n'est pas du tout un geste comme ça. Je décide de coller une banane contre un mur, mais je sais très bien ce que je fais. Et je sais très bien, en fait, il savait très bien d'abord le flot de commentaires qu'il allait susciter. C'est quelqu'un qui a un sens visuel très développé. Il est directeur artistique de la revue Toilet Paper, donc il sait très bien le pouvoir des, il connaît le pouvoir des images. Et c'est un homme de son monde. Il connaît aussi le pouvoir des réseaux sociaux. Il savait très bien qu'une œuvre de cette nature allait tout de suite susciter un flot de commentaires, allait faire réagir évidemment tous les contempteurs de l'art contemporain qui allaient sortir leur artillerie réprobateur. Voilà, regardez où on en est, regardez dans quelle impasse on se trouve. Donc c'est, en fait, il appuie, c'est pas qu'il appuie là où ça fait mal, il appuie sur les ressorts médiatiques, il appuie sur les besoins, les désirs les plus profonds des collectionneurs. Et il sait absolument quelle manette actionner pour faire réagir.
Alors, est-ce que justement, Roxana Azimi, il ne tombe pas là justement dans ce qu'il critique, c'est-à-dire que, vous le dites, il anime, il tire les manettes dont il sait qu'elles vont fonctionner, que ce soit du côté des collectionneurs ou du côté des contempteurs de l'art contemporain, et en même temps, il ne leur apporte pas vraiment de réponse à ces critiques.
Non, il n'apporte pas de réponse. Est-ce qu'un artiste doit absolument apporter une réponse? Je ne crois pas. C'est pas à l'artiste d'apporter une réponse. Mais ce qui est étonnant, c'est plus le manque de distance peut-être de nous, les médias. C'est-à-dire, on y est tous allés, on a tous foncé, tête baissée, exactement là où ils voulaient nous conduire. Donc c'est plutôt à nous de nous poser des questions.
Ben justement, j'allais vous la poser, la question du regard médiatique. Alors, je le disais en ouverture de cette émission, vous êtes une spécialiste du marché de l'art, notamment. Est-ce que les médias n'ont pas trop focalisé leur regard, notamment ces 10 dernières années, on pourrait l'inscrire dans la suite, évidemment, de la crise financière de 2008, qui a vu l'art contemporain et le marché de l'art devenir un marché refuge. Et est-ce que les médias n'ont pas trop tendance à regarder l'art contemporain à travers cette lorgnette du marché?
Alors, regarder à travers la lorgnette du marché, c'est pas forcément un travers, parce que le marché est une chose qui existe et le marché est une chose importante, indispensable. Je ne connais pas d'artiste qui ne souhaiterait pas vendre ni avoir un marché conséquent. Donc, c'est pas tellement le marché en tant que tel. C'est plus regarder le marché sans critique. C'est ça qui peut être problématique. Et je pense que toute la presse ne tombe pas dans ce travers de juste dévider des prix records sans se poser de questions. La chose qui peut parfois manquer, c'est le manque de distance. Mais traiter du marché, c'est une chose assez indispensable. Le marché a toujours fait partie de l'art et de l'histoire de l'art.
Oui, mais il ne s'agit pas de traiter ou de ne pas traiter du marché, évidemment, mais plutôt de s'interroger sur la place que cette critique du marché ou que cette analyse du marché prend sur la critique, par exemple, des expositions, par exemple, de ce qui se fait dans les galeries, véritablement, de ce que c'est que le métier de galeriste aujourd'hui, qui est quelque chose d'assez peu connu quand on a en tête des Perrotin ou des Gagossian, ce qui n'incarne pas véritablement la réalité du métier tel qu'il est pratiqué par tout un tas de galeristes à travers le monde, Roxane Azimi.
Alors, c'est vrai que... les pages culture, en fait, c'est très étonnant parce que les pages culture des médias généralistes se sont développées, les pages dédiées à l'art contemporain se sont développées, et c'est vrai que malgré tout, ces pages sont consacrées principalement à une cinquantaine d'artistes qui reviennent régulièrement, des Damien Hirst, dès qu'ils ouvrent la bouche, dès qu'ils peignent un cerisier, ou dès qu'ils ont une expo quelque part, ils ont droit à des doubles pages, triples pages, ou alors il faut être un artiste centenaire pour bénéficier de ce type de couverture. Mais après, il y a quand même des magazines artistiques qui existent précisément pour s'intéresser à tout le spectre de l'art et pas uniquement le spectre des artistes les plus chers. Donc on ne peut pas généraliser non plus.
Alors je vais aller un petit peu contre ce que je viens de dire, parce que j'aimerais quand même vous entendre un petit peu sur cette décennie écoulée et sur le marché de l'art, son évolution en lui-même, si vous le voulez bien, Roxane Azimi. Dans un article récent du Monde, vous releviez cette analyse d'un cabinet qui s'appelle Art Tactique sur le volume de vente aux enchères d'art impressionniste moderne et contemporain à New York, qui est un peu le baromètre du marché de l'art, évidemment, chaque année, qui aurait baissé de 30% en novembre 2019 par rapport à 2018. Et vous dites, c'est ce cabinet qui dit, voilà, il y a le flou concernant le Brexit, les troubles à Hong Kong, le processus de destitution même du président américain, la procédure d'impeachment, et donc on se retrouve face à un marché comme les autres, en quelque sorte, qui subit les aléas de la politique internationale, Roxane Azimi.
Oui, en fait, on a toujours voulu dire que le marché de l'art n'est pas corrélé ni à la bourse, ni à l'immobilier, ni au monde réel. Et en fait, non, le marché fait aussi l'épreuve du réel, et heureusement d'ailleurs. Après, il faut aussi préciser une chose, c'est que les ventes aux enchères, et notamment les ventes que vous évoquiez dans cet extrait, ne représentent que le haut de l'iceberg. C'est-à-dire l'activité au quotidien des galeristes, notamment en France, n'est pas déterminée par les troubles à Hong Kong ni par la procédure d'impeachment de Donald Trump. Mais au plus haut niveau, où l'air se fait plus rare et où le nombre d'acheteurs, d'acteurs sont plus réduits, mais oui, ces acteurs-là font attention au monde qui les entoure et aussi à l'image qu'ils renvoient, parce qu'ils fleurent pas bon aujourd'hui, par exemple pour un acheteur chinois, de trop montrer qu'il achète des œuvres d'art dans un pays où il y a une procédure anticorruption qui a été engagée depuis quelques années. Autant il y a 10 ans, ça faisait très bien rien de dire, voilà, je suis un grand acheteur, j'achète pour des millions. Autant aujourd'hui, on fait plus profil bas. Donc oui, on n'est pas le marché de l'art est absolument lié au monde qui l'entoure.
Oui, évidemment, mais vous dites ces grandes ventes aux enchères ne sont pas représentatives ou significatives de ce qui se passe dans les galeries au quotidien. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler malgré tout de ruissellement, s'il faut continuer dans cette métaphore du marché, c'est-à-dire de se dire qu'à partir du moment où il y a des grands mouvements en haut de la pyramide, ça vient toucher en bas les pratiques des collectionneurs. Est-ce qu'en 10 ans, pour le dire simplement, cette emprise de ce regard sur le marché de manière presque quotidienne sur les évolutions du marché qui inclut le marché de l'art est venue troubler la façon dont les collectionneurs se comportent, dont ils agissent avec leurs galeristes vis-à-vis des artistes qu'ils veulent soutenir?
Alors je ne crois pas à la question du ruissellement, ni pour le marché de l'art, ni dans la société, je dois l'avouer. Donc je ne crois pas que le fait qu'il y ait un boom dans le marché de l'art ait soudain profité de manière phénoménale à des galeries de taille moyenne en France. Je ne le pense pas du tout. Après, le fait de voir régulièrement parler l'art contemporain est devenu quelque chose de familier. C'est pas juste parler de l'art contemporain, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lieux qui ont été créés dédiés à l'art contemporain. Il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas autant de fondations en France, il n'y avait pas autant de perspectives de nouveaux lieux comme il va y en avoir en 2020-2021, donc ne serait-ce qu'en France. Donc c'est la floraison des lieux d'art qui a aussi pousser les gens à regarder l'art, c'est-à-dire les gens ne peuvent plus se dire l'art d'aujourd'hui ne fait pas partie de ma vie, il fait partie de l'environnement urbain, de l'environnement intellectuel, parce que dès qu'on ouvre une revue, on voit quand même de l'art, même si c'est un certain type d'art qui est toujours montré, mais quand même. Oui, il y a eu une modification, oui, il y a eu beaucoup plus de collectionneurs, mais par contre, je ne pense pas qu'il y ait eu un effet de ruissellement entre le haut et le bas de la pyramide.
Non, ce qu'on voit, c'est plutôt un phénomène tel que celui qu'a analysé par exemple l'économiste Thomas Piketty, c'est plutôt le haut de la pyramide qui s'échappe et le bas qui reste, qui s'agrandit dans sa condition d'inégalité, j'ai envie de dire, au quotidien. Et alors justement...
Ça a marché à plusieurs vitesses.
Puisque vous parliez des fondations, il y a en France deux grands collectionneurs que sont Arnaud et Pinault qui ont créé la fondation LVMH il y a déjà quelques années et la fondation Pinault qui doit ouvrir à Paris bientôt également à la place de l'ancienne bourse de Paris. Et est-ce que là aussi ça indique une évolution de ces 10 dernières années, c'est-à-dire de voir émerger comme ça des noms qui sont des noms aussi du luxe et donc on voit à quel point l'art contemporain a pu être récupéré, notamment par ces grandes marques de luxe, Roxane Azy.
Ah oui, l'art a parfaitement été récupéré par les grandes marques de luxe. Alors, dans le cas de François Pinault, c'est à titre personnel, ce n'est pas lié aux activités de Gucci. Donc, ce n'est pas une fondation, c'est une société commerciale. Donc, ça n'a pas un statut ni de fonds de dotation ni de fondation. Et ce n'est pas du tout lié aux affaires de Gucci et du reste des marques que possède Kering. Le groupe Kering. Dans le cas de LVMH, oui, bien sûr, c'est un blason de plus pour une activité qui a d'autant plus besoin de l'art que, en fait, le luxe a absolument besoin d'aura. Ce n'est pas pour rien que les marques de luxe font appel aux artistes pour créer des sacs, des lignes de maroquinerie, imaginer les devantures de leurs magasins. C'est que le luxe leur apporte, l'art leur apporte ce qui leur fait défaut. Et c'est vrai que l'art, c'est anoblissant. Ça transforme un produit qui est lié à une dépense en pure perte en quelque chose de presque noble, presque sacré. Donc oui, c'est un rôle capital. Et pas qu'en France, hein. On voit toutes les marques italiennes aussi qui sont engagées dans l'art contemporain, que ce soit Prada, que ce soit Max Mara, donc Trussardi. Beaucoup de fondations en Italie sont dédiées à l'art contemporain de marques de luxe. Donc ce n'est pas pour rien, évidemment.
12h21 sur France Culture, on parle de cette décennie passée, celle qui vient de s'écouler et qui a fortement marqué le milieu de l'art contemporain, que ce soit son marché ou on va en parler à partir de maintenant, Roxana Azimi, également l'évolution des artistes.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
On parle donc d'art contemporain et donc oui, comme je le disais, Roxana Azimi, il faut aussi parler des premiers concernés par toutes ces évolutions, ceux qui sont les artistes et dont on n'a pas souvent pas souvent l'occasion de regarder l'évolution à la fois de la situation et de même de ce qu'ils produisent. Par exemple, dans ces 10 dernières années, il y a une exposition là en ce moment au Palais de Tokyo à Paris qui s'appelle Futur ancien fugitif, une scène française qui vient marquer 10 ans après un nouveau regard sur... Il y avait une exposition il y a 10 ans qui s'appelait Dynastie, qui marquait toute une génération d'artistes français. Et là, c'est un pari un peu différent, c'est de dire que on peut regarder les différentes scènes artistiques françaises, donc une évolution sur le regard de ce que c'est qu'être un artiste et un artiste contemporain. C'est une question permanente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit l'artiste contemporain, Roxana Azimi?
C'est pas la question que je vous pose,
mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qu'on passe son temps dans les expositions à essayer de montrer. C'est-à-dire, soit on va dire que ce sont les plus jeunes, c'était le cas il y a 10 ans, soit on va dire que ce sont différentes scènes qui interagissent différemment avec le monde.
Alors, cette exposition-là, puisque vous parliez de l'exposition du Palais de Tokyo, qui n'est pas l'exposition que j'ai préférée, qui n'est pas effectivement pas un état des lieux de la scène, mais qui essaye de montrer l'envers aussi de cette scène, c'est-à-dire des artistes qui ne sont pas des premiers de cordée. Et ça, c'est la partie la plus intéressante, je pense, dans la démarche, en tout cas pas forcément de ce qui est montré, mais en tout cas dans la démarche de s'intéresser aussi aux angles morts. Hein. Montrer qu'une scène ne se limite pas à quelques stars, mais aussi à beaucoup de communautés d'esprit qui ne se retrouvent pas forcément dans les problématiques défendues par beaucoup d'institutions aujourd'hui et qui exercent avec beaucoup d'entêtement, dans la solitude parfois, mais avec une ténacité qui est quand même très louable, malgré l'absence totale d'éclairage, malgré le fait que bon, les collectionneurs ne s'intéressent pas forcément à eux, mais ils sont tenaces, ils continuent. Et c'est intéressant de montrer ça. Il y a peu de soutien public, il y a peu de soutien privé aussi pour ces artistes-là. Enfin, certains des artistes montrés, en tout cas, qui n'ont pas été montrés depuis très longtemps par des institutions publiques, qui ne sont pas forcément dans des galeries, je pense qu'ils ne sont même pas dans des galeries actuellement, qui ont pu l'être, qui ont pu avoir leur moment de gloire et qui ont disparu. Et c'est vrai que c'est le dur métier de durer qui est qu'on peut voir dans cette exposition. C'est pas évident de rester un artiste auquel institutions publiques, collectionneurs privés s'intéressent de manière constante. C'est un vrai problème, oui.
Autre signe aussi qui montre que l'art, évidemment, est contemporain quand il est de son temps et quand il s'interroge, quand il reprend les questionnements de son temps. Vous avez signalé récemment la présence de plus en plus importante d'artistes issus de ce qu'on appellerait les minorités, notamment de femmes africaines-américaines. Est-ce que il y a là, selon vous, une évolution naturelle, voilà, qui correspond à l'évolution de la société, une volonté aussi, peut-être parfois, bien entendu, du marché de surfer sur une mode?
C'est un double mouvement. C'est effectivement l'idée qu'on ne peut pas se contenter du grand récit écrit par des hommes blancs aujourd'hui septuagénaires, qu'il faut changer ces lunettes, en fait, de sa grille de lecture. Pour ce qui est du marché, il y a quand même beaucoup d'opportunisme. En fait, c'est un double mouvement de... On n'a plus forcément de quoi nourrir le marché parce qu'on est dans une période de crise, les gens sont attentistes, ils font attention, ils veulent pas forcément vendre des œuvres de Warhol, Basquiat et autres qui sont devenues des valeurs sûres. Et donc, du coup, on se rabat sur d'autres formes artistiques qui ont un peu plus le vent en poupe. Donc, c'est à la fois de l'opportunisme, c'est à la fois un mouvement, ça traduit aussi un mouvement de société. C'est un peu les deux.
Oui, parce qu'il y a aujourd'hui un véritable travail de relecture de l'histoire de l'art. Je pense récemment à un essai important, à mon sens, de Philippe Dagen sur les primitivismes publié chez Gallimard. Donc Philippe Dagen, qui est à la fois professeur d'histoire de l'art et qui est votre collègue aussi, puisqu'il critique régulièrement les expositions. Et dans cet essai, donc sur les primitifs, qui est sa spécialité, il montre comment, à la fois au tournant du 19e, 20e siècle, il y a une façon de se réapproprier l'art qui vient des colonies, d'Afrique, d'Océanie, comme objet aussi de domination, mais aussi pour interroger la modernité, pour interroger l'académisme tel qu'il s'est développé et tel qu'il est critiqué à ce moment-là de l'histoire de l'art. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense aussi aux travaux d'Anna Font, par exemple, qui est une autre historienne de l'art, qui essaye de changer ses lunettes sur l'art contemporain.
C'est plusieurs choses. C'est regarder l'ailleurs, mais aussi ce qui est pas juste l'ailleurs, mais ce qui est aussi juste à côté de chez nous. C'est-à-dire se rendre compte qu'on est dans une société métissée, qu'on est dans une société où la diversité est à l'œuvre. Donc on ne peut pas continuer dans le champ de l'art à fonctionner de manière monolithique et à ne regarder qu'une seule voie artistique, qu'une seule voie sociétale, c'est plus possible. Mais il y a autre chose aussi, c'est un peu pour revenir aussi à Catalane, c'est l'idée de redonner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. C'est vrai que les artistes prennent la parole aujourd'hui. Et en fait, moi, le mouvement en fait qui m'a le plus frappé ces dernières années, c'est évidemment la montée en puissance des minorités issues, que ce soit les Africains, Américains aux États-Unis, que ce soit les artistes d'origine arabe en France. Mais ce qui pour moi est le phénomène le plus marquant de ces dernières années, c'est la politisation croissante des artistes. C'est le fait qu'ils n'ont plus peur de s'affirmer comme des êtres politiques, pas seulement dans leur œuvre, mais dans leur action. Ce sont devenus des militants qui agissent dans la société. C'est-à-dire ils sont en grève aujourd'hui aux côtés de d'autres catégories professionnelles. Ils n'hésitent pas à dire: nous ne voulons plus d'une société qui veut décerner des prix, qui veut favoriser l'individualisme. Donc plusieurs artistes ont dit non, le Turner Prize, qui est le prix le plus prestigieux, le prix anglais, on décide de dire on se met à plusieurs, on est un collectif, donner le prix à tous les quatre. C'est pas du tout l'école des fans, c'est pas un geste ingénu, c'est un geste politique extrêmement fort.
Oui, pardon, vous faisiez référence à cette décision récente, en effet, de prendre collectivement le Turner Prize. Merci beaucoup, Roxana Azimi. On arrive au bout de cette émission. On avait encore plein de choses à dire. Et puis, on vous recevra à la fin 2020 pour faire le bilan de ce qui se sera passé dans la décennie à venir. Dans quelques instants, le journal. Et puis après, en seconde partie, Idée de la Grande Table, on recevra Frédéric Joly pour La Langue Confisquée. Lire Victor Klemperer aujourd'hui, c'est aux éditions Premier Parallèle.